Et vous?
Et nous?
On va où? C'est la question qu'un groupe de personnes s'est posée en tendant des micros inaudibles, des personnes qui n'ont pas la parole habituellement. En partenariat avec le Parcours Trans, proposé par l'UBU et l'Association des Trans Musicales, ce groupe d'amateurs est parti à l'aventure en quête de parole, dans l'objectif de créer, diffuser un podcast. Cette année, on s'est posé la question de l'accès à la culture. Qui va où? Qui fait quoi? Qu'en pense-t-il? Tout est possible?
Alors, parce que là, je ne sais pas ce que c'est la culture, en tout cas. Moi, je connais la création.
Je ne sais pas si je peux te dire, pour moi, ce qu'est la culture. Je n'ai pas une définition qui me vient en tête, sauf que je pense que c'est quelque chose d'important dans une vie personnelle ou dans une vie en société. C'est même fondamental pour comprendre le monde dans lequel on vit.
Pour moi, la culture, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est ce qu'on vit, ce qu'on crée tous les jours. C'est un partage. C'est un résultat un peu de ce qu'on est, de ce qu'on devient.
Ouais, c'est de la connaissance aussi. Je pense que plus on connaît et plus on a des armes aussi pour affronter ce monde-là. Ouais, ça c'est sûr que c'est du partage. Ouais. Je pense que la bonne culture, c'est aussi une culture dans laquelle tout le monde peut accéder.
La culture, c'est déjà pour moi la connaissance, que ce soit de la culture générale, de la culture musicale, de la culture en tout genre en fait. La culture, c'est savoir pour moi. Culture égale savoir, à mon sens.
Alors moi, je ne parlerai pas de la culture, mais je parlerai des cultures, de manière générale. Et ce qu'on peut entendre par culture, c'est pas simplement les arts, c'est pas forcément non plus les beaux-arts, le cinéma, la musique, tout ça, mais c'est ce qui... c'est la transmission, en fait, du vécu de différentes générations à travers les âges.
Une expérience culturelle, en soi, j'en ai plein. Mais une qui m'a marqué plus précisément, c'était le fait que ma grand-mère, qui m'a élevé, me transmette ses savoirs en cuisine. Et à chaque fois que je suis en train de cuisiner, c'est clairement elle qui me guide.
Par exemple, même des fois on va se dire entre potes, venez, on va en concert, puis ça crée des liens et tout, puis là-bas même tu rencontres d'autres gens, ou tu revois des gens avec qui t'avais pas trop de lien non plus, tu crées du lien. Ça crée du lien, je trouve. C'est le partage super important dans la culture, justement. Ouais. Tu partages ça avec les autres, c'est la culture aussi du partage, aussi, je pense.
Est-ce que tu peux nous parler d'une expérience culturelle qui t'a beaucoup marqué?
Comme d'habitude, c'est comme le premier amour, c'est la première fois. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient d'une famille que la culture était présente. Hein.
D'accord.
Voilà, très populaire. Et je suis allé à 16 ans à voir un spectacle de théâtre.
Il y a un concert qui m'a beaucoup marqué. C'est un concert que j'ai vu il y a plus d'une vingtaine d'années, qui était un concert de Ryoji Ikeda et Alvin Otto. C'était à Bordeaux et c'était un moment où je me suis assis dans une salle de concert parce que c'était pas un concert pendant lequel on dansait et j'ai passé un moment incroyable. Je suis sorti de là, j'ai l'impression que j'avais changé de planète et c'est un des concerts. Depuis, j'en ai vu un des concerts, des spectacles, des choses, mais il y en a jamais eu un truc qui m'ait autant marqué que celui-là.
Dans un événement qui m'a marqué le plus, c'est le premier Deepavali que j'ai fait, qui est la fête de la lumière.
D'accord.
Et dans cette fête de la lumière, c'est connu chez les hindous, c'est une fête en l'honneur des dieux ou des divinités existantes dans leur confession.
D'accord.
Et justement, un truc qui m'a marqué là-dedans, c'est cette osmose qu'il y a. Peu importe tes origines, c'est ouvert. Et c'est juste, cette communion, elle est juste merveilleuse, en fait.
Le truc qui m'a marqué aussi, c'est la Coupe du Monde 98. Tout le monde était généreux et tout le monde était content. Il y avait...
De foot.
Ouais, de foot. Moi, j'aimais pas le foot, mais on était tous unis.
J'ai eu un peu des espèces de grandes découvertes de à quel point la musique comptait pour moi en vivant des concerts. J'ai fait le concert de Indochine notamment. J'écoutais ça avec mes parents quand j'étais petite. Et sinon, j'ai vu pas mal d'artistes aussi Au Paléo, c'est un festival qui est à côté de chez moi, qui est très très éclectique. Il y a autant des mamies que des ados que des enfants qui viennent.
Pour moi, c'est la fête de la musique. J'adore cette fête parce qu'elle est à ciel ouvert et du coup, on peut se balader dans toute la ville et écouter du son qu'on aime ou qu'on découvre sur différents lieux du centre-ville ou même aux alentours du centre-ville de Rennes. C'est un moment où on peut écouter de la musique tous ensemble avec des personnes qu'on connaît, qu'on aime, mais aussi avec des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on rencontre par le biais de la musique.
Bon, j'avais vu à Binic un truc de blues, hein, qui était gratuit, quoi. J'avais trouvé ça bien. Hein. Il y avait un artiste, il jouait de tout, quoi. Il jouait même de plusieurs instruments à la fois et il chantait et tout, quoi. C'était un chanteur, je sais plus comment il s'appelait, il était du nord ou de l'est de la France, quoi. C'était un grandiose, quoi.
Je pense à un film qui m'a marqué à l'adolescence, Elephant Man, l'histoire de John Merrick à la fin du 19e siècle, qui avait un visage déformé à cause d'une maladie. Et j'ai été choquée par la méchanceté et l'exploitation qu'a subi cette personne. Ça m'a vraiment marqué que l'être humain soit capable de tant de méchanceté, parce que moi j'étais quelqu'un d'assez naïve, et ça m'a en tout cas appris à vraiment considérer l'altérité, bah, ne jamais juger l'autre sur son apparence.
Alors, c'est pas une première expérience, mais c'est au collège, lorsque j'étais au collège, que j'étais puni par une prof qui m'a obligé à faire le concert de fin d'année. Et je me suis retrouvé devant toute ma commune, tout mon collège, tous les gens qui n'ont pas été cool avec moi toute mon adolescence, en tout cas, durant cette époque-là. Et ma famille. Et en fait, j'ai compris qu'avec de la musique, avec de l'art, avec une autre culture, une autre approche, les gens étaient touchés. Et j'ai vu ma mère fière pour la première fois de ma vie. Et des gens qui étaient complètement contre moi, qui au final se sont totalement rapprochés de moi.
Donc tu penses que la culture, finalement, c'est un lien social ?
Un lien social, c'est une libération, surtout. Une libération.
Ça pourrait faire changer des gens, la culture, du coup ?
Ça fait changer des gens, j'en suis certain. Si on a accès à ça, oui, bien sûr, ça peut faire changer des gens. Le regard sur la société, le regard sur l'art, le regard sur la littérature, sur tout. Et sur l'autre, surtout, sur l'autre.
De toute façon, on est tous en recherche de notre propre culture, et en cherchant la nôtre, on trouve celle de ceux qui s'en rapprochent. Et je pense que c'est ça qui nous réunit. Comme ça peut aussi nous éloigner, parce que le fait d'avoir peur ou de ne pas connaître d'autres cultures nous éloigne aussi beaucoup. C'est un peu ce qui crée parfois le racisme. C'est l'incompréhension de la culture des autres, qui parfois est trop éloignée, ou semble trop éloignée, parce qu'en soi, rien de vraiment éloigné, ça reste de l'humanité. Mais c'est vrai qu'on voit du rapprochement dans la culture, mais on voit aussi du rapprochement dans le mélange de cultures. Quand on arrive à le faire, ça donne des ambiances incroyables.
Ça veut dire que ces histoires qu'on raconte, ces cultures qu'on a, cette transmission qu'on fait, elle peut se charger d'émotions, et c'est un excellent réceptacle de l'émotion. C'est de l'émotion qu'on arrive à transmettre, et je trouve que c'est important dans ce qui est la production culturelle de pouvoir aussi transmettre et partager de l'émotion.
La culture permet en fait de comprendre, de pouvoir ressentir des choses, notamment. La musique, par exemple, ça fait ressentir des émotions, des états d'âme. Ça permet notamment de découvrir la politique, parce que notamment dans l'univers que j'ai rencontré à Rennes, on est sur un milieu qui est très politisé. Et la culture, en fait, n'est pas dangereuse.
La nourriture et la musique, ce sont des choses qui créent et qui renforcent des liens. Et on n'a pas forcément besoin de connaître la personne qui est en face de nous. C'est plus une question d'énergie, de convivialité, de familiarité, une énergie de groupe. Et ça renforce et ça fait du bien.
Quand tu es au théâtre, c'est assez plaisant d'aller dans des endroits dans lesquels on ne connaît pas, parce qu'on est accompagné quand même. C'est comme si tu rentres dans une forêt. Quand tu rentres dans une forêt, c'est normal qu'on ait un peu peur. Mais si on est accompagné par des gens, on peut vaincre certaines peurs. J'ai trouvé que ces moments-là, j'avais... Tout était devenu noir pour une simple réplique. Hein. Mais parce qu'il avait vraiment créé cet espace entre son mot, très simple, le jeu, donc ça veut dire toute l'histoire qu'il avait racontée, et ma relation à moi. Ça veut dire que je suis rentré dans un espace que je ne connaissais pas.
Bah, si on parle en termes de spectacle, ce qui m'a le plus marqué, de toute façon j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est un jour j'ai eu la chance de voir IAM dans un festival. Bah, c'était la première fois de ma vie que j'avais la chance de voir un artiste que j'aimais bien sur scène. Quoi.
Pourquoi tu dis que tu n'as pas eu la chance d'avoir beaucoup d'accès à des concerts ou à la culture? Tu m'as dit ça tout à l'heure.
C'est ma famille, c'était pas du tout leur culture. C'était pas du tout leur culture. Eux, ils n'étaient pas du tout là-dedans. Les spectacles, le cinéma, tout ça, c'était pas du tout ça.
Tu penses que ça t'a manqué
Non, mais maintenant, oui. Je me dis quoi, je suis passé à côté de quelque chose.
Est-ce que tu crois que c'est trop tard pour aller au concert maintenant pour,
Non.
Qu'est-ce qui te bloquerait là aujourd'hui Qu'est-ce qui te bloquerait si tu voulais aller au concert, si tu voulais aller faire des spectacles ou est-ce qu'aujourd'hui tu y vas justement?
Non, c'est justement, vu que j'ai pas été habitué à ça, c'est comme ça, j'en ai pas forcément le besoin et ni l'envie.
La culture, j'y ai toujours eu accès. Ma famille a toujours été passionnée par la culture, nous a toujours, par exemple, même en culture simple, fait lire, aller voir beaucoup d'expositions, des musées, visiter des bâtiments. La culture, d'un point de vue social, est souvent transmise. Elle est d'ailleurs souvent inégale en fonction on va partir de classe sociale, même si c'est pas le meilleur terme. Souvent, la culture, c'est aussi apporté en fait dans l'éducation beaucoup primaire, donc ce que peuvent nous apporter nos parents. La deuxième partie de la culture qu'on a, c'est au niveau, par exemple, de l'éducation. Beaucoup au niveau de l'école, mais sans le bagage déjà culturel de la famille, c'est très compliqué d'avoir un accès à la culture comme les autres.
Bah, la culture, la toute première fois que j'en ai parlé, c'est surtout à l'école. Après, là où vraiment j'ai été ouverte plus à la culture, c'est avec les teufs, tout ce monde-là qui est autour d'une culture, tout ça. Après, la vie à la rue aussi m'a apporté beaucoup de trucs. De certains trucs, de certaines vies qu'on peut avoir, comment vivre certaines choses, ou c'est justement certaines cultures qui font que ça, on vit comme ça. Et voilà.
La première fois où j'ai pu assister à des concerts, parce que c'était pas qu'un seul concert, c'était un petit festival, ça s'appelle le Saint-Malo Rock City, et c'était à la Nouvelle Vague à Saint-Malo. Vu que je suis malouine, j'habitais juste à côté, à 5 minutes de chez ma maman, du coup, y a la Nouvelle Vague, c'est une salle de concert. Et il y avait ce petit festival qui était gratuit, qui proposait beaucoup de groupes super sympas à découvrir, dont un groupe que j'ai revu récemment grâce au relais à l'Ubu, Pogo Car Crash Control. Je les avais déjà vus, mais ça m'a pas autant marqué que la dernière fois, du coup, que la première fois que je les ai vus. Mais je les ai revus à l'Ubu et j'ai même pu discuter avec deux membres du groupe. Du coup, je trouve ça super. Et je trouvais ça cool parce qu'à l'époque, moi, j'avais pas beaucoup de revenus, pas beaucoup de ressources nécessaires pour peut-être participer à des concerts. Je n'avais jamais fait quasiment. Et du coup, là, le fait que ce soit gratuit, c'est plus accessible pour les gens précaires. Et je trouve ça cool comme format. Faire un petit festival gratuit qui propose des groupes super. Et ça aurait pu ne pas être gratuit. Ça aurait pu être un tarif fixé. Mais voilà, c'était très accessible.
Et en plus, c'était à deux pas.
Deux pas de chez moi. Voilà, ça c'est pratique d'habiter à côté des salles de concert ou ce genre de choses. Comme en habitant à Rennes, au final, on est très proche en fait, de plein de choses. Genre des bars, des salles de concert, des... Voilà. On a beaucoup de choses à notre portée à Rennes, ça c'est trop cool, parce que c'est un peu une ville de fête.
Certains événements culturels sont gratuits, mais la plupart du temps, leurs accès sont payants. Alors, comment fait-on quand on est en précarité? On a rencontré des artistes pour les questionner sur le sujet, Grande Masachise, Manuel Mahan et Massimo Dine. Be mad and frustrated.
Est-ce que vous jouez forcément dans des salles de concert? Ou bien aussi dans des lieux plus accessibles comme des bars, des open air, des événements gratuits?
Ouais, le week-end dernier par exemple, on était à Ponto de Mer et c'était un concert gratuit. Comment s'appelait la salle
L'écho.
L'écho, voilà. Et donc c'était une petite école de musique qui organise un concert par mois et qui programme de tous les styles, rock. Donc on fait pas mal de concerts comme ça ou de festivals. Après, c'est vrai qu'on se renseigne pas forcément sur la gratuité ou quoi. Souvent, on la prend un peu au dernier moment. On se dit, ah bah, tant mieux, c'est cool. Et je pense que les artistes devraient plus initier le dialogue aussi, se renseigner sur ça.
Vous êtes aussi d'accord pour dire que le terme du prix est aussi quelque chose qui freine l'accessibilité du coup à cette culture?
Ouais. Surtout depuis le Covid, en fait, le prix des places de concert ont explosé. En France, c'est encore un petit peu contrôlé et on essaye de faire en sorte avec nos tourneurs que ça ne dépasse pas un certain prix. Mais c'est vrai qu'il y a des entreprises, comme disait Edith, comme Ticketmaster, qui eux font carrément de l'offre et de la demande. Et donc, plus le concert, plus c'est un grand artiste, plus l'artiste est demandé, plus le ticket va être cher. Et donc, c'est sûr que ça rend les concerts encore moins accessibles et ça devient un peu un produit même de luxe.
Il y a plein de personnes qui vont acheter les tickets et après les revendre.
Ouais, c'est ça. Ça peut atteindre des prix vertigineux, mais c'est vrai qu'on pourrait, en tant qu'artiste, plus initier le dialogue avec nos tourneurs.
Est-ce qu'il y a des artistes qui mettent des choses en place pour faciliter l'accès à la culture, justement pour des gens dans la précarité? Ça me fait penser, si vous voulez, à... Je ne sais pas si vous savez que Nina Simone, elle avait accueilli des personnes à la rue qu'elle avait mis à son concert au premier rang, et le concert, plus de 100$, tu vois. Et j'avais trouvé ça super.
Alors, tu cites Nina Simone, c'est un très bon exemple parce que je suis fan. Nina Simone pouvait faire, grosso modo, tout ce qu'elle voulait. Moi, sur le papier, je rêverais de faire la même chose. J'en ai pas le pouvoir. C'est important, hein. C'est pas un manque de volonté, c'est un manque de pouvoir, tout simplement.
Aujourd'hui, est-ce que tu aurais en tête ce qui pourrait freiner les gens, éventuellement, de venir justement se faire cette culture chez cette culture?
Alors, je pense qu'on a quand même beaucoup de travail encore à faire, mais il y a quand même un petit travail qu'aussi il a été fait, tout ça. Je pense que d'un côté, le côté qui décide, je pense qu'il a peur de faire accéder tout le monde à la culture. C'est normal aussi, parce que plus tu accèdes, plus tu as des armes. Et de l'autre côté, je peux aussi dire que il y en a peut-être certains qui s'effraient aussi.
Au-delà des freins, on se retrouve parfois exclu de certains événements culturels. Et si on allait voir du côté des transmusicales, on a testé le parcours proposé.
Bonjour, moi je suis Lucie, je suis chargée de l'action culturelle au Transmusical.
Est-ce que tous les publics viennent à l'Ubule selon toi?
Non, clairement pas. Non, ils viennent.
Moi, d'ailleurs.
Oh là là, c'est typiquement mon métier. Vraiment, mon métier, ça va être d'aller à la rencontre de tout le monde et notamment les personnes qui viennent pas dans nos structures parce qu'elles ne nous connaissent pas. Et puis il y a plein de gens qui viennent pas pour plein de raisons. Je sais pas, moi par exemple, des détenus en prison. Si t'es en prison, tu peux pas venir. Si t'as entre 0 et 6 ans, ça m'étonnerait que tu viennes voir des concerts le soir. Si t'es très âgé et à l'EHPAD, c'est pareil. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons, en tout cas, de personnes qui viennent pas. Il y a des gens qui viennent pas parce qu'ils ont pas d'argent. Il y a des gens qui viennent pas parce qu'ils aiment pas la musique. Il y a des gens qui viennent pas parce que c'est pas leur culture.
Est-ce que l'UBU pourrait-il proposer des prix libres?
Ah, bonne question. Alors ça a commencé comme ça. Les rencontres transmusicales, le premier festival en 1979, c'était prix libre. Et l'idée, c'était de venir en aide à l'association Thérapin, parce que ça n'existait pas encore, l'association transmusicale, et qui était en difficulté. Et donc l'idée, c'était cet événement, il ne devait pas se reproduire en fait. C'était un événement pour venir en aide à l'association. Donc ça a commencé comme ça en prix libre. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas du tout... Enfin, si ça pourrait être mis en place. Après, il y a des tarifs. Je pense qu'on doit être le festival avec le plus de tarifs possible, tellement il y en a un peu pour chaque type de personne et chaque situation. Et puis, on a aussi des choses qui sont des fois gratuites. Par exemple, vous rentrez dans un cadre de parcours, vous êtes invité ce soir. Alors, ça ne veut pas dire que c'est gratuit ce soir, mais ça veut dire que c'est financé. C'est-à-dire que c'est nous qui finançons ce projet-là. Donc après, c'est des questions de choix aussi et des questions de possibilités, comme je vous l'expliquais tout à l'heure.
Syllab adore les transmusicales.
Allez, zou! Les transmusicales, c'est maintenant. Hop, 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 hop! Les transmusicales, c'est maintenant.
Alors les parcours trans, ça fait un petit moment que ça existe au Transmusical. Et cette année, par exemple, ça se passe vraiment très, très bien. Je laisserai évidemment les participants nous en parler parce que c'est vraiment eux qui le vivent au quotidien. Mais là, on a à peu près 400 participants au parcours trans qui sont répartis sur 3 jours, donc jeudi, vendredi et samedi. Et sur 3 jours, ils vont en fait faire un planning à la carte puisqu'on les a rencontrés en amont, on connaît leurs prénoms, on connaît leurs envies, on sait exactement ce qu'ils veulent faire sur le festival et donc on leur concocte des plannings avec des visites backstage, des entrevues avec des artistes, des entrevues avec des professionnels. Et donc c'est vraiment un Tetris de malade mental parce que imaginez ça avec 160 personnes à la journée, c'est des 15 minutes par 15 minutes par 15 minutes, ils ont des espaces qui leur sont dédiés aux libertés et aussi au Parc Expo. Et comme ça, ils peuvent monter en fait leur projet. Et c'est le cas, par exemple, du groupe La Cloche et le relais Centre-Ville, qui ont souhaité donc faire une émission de radio sur une thématique bien particulière.
Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, le parcours trans, la création de ce projet? Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience?
Alors, en soi, ça s'est passé plutôt simple. Ça a été plutôt intéressant. On a eu comme premier lieu, on a quand même dû essayer de créer de la matière. Du coup, on a pu aller dans la rue, interviewer des personnes, de tout type de personnes, surtout des inaudibles, des personnes en soi qui n'ont pas eu la parole, qui n'ont pas la parole. Ça a été vraiment très intéressant d'écouter leur point de vue, savoir ce que eux-mêmes, qu'est-ce qu'est la diffusion de la culture pour eux, quel a été l'événement qui pour eux s'est marqué dans leur cœur, pour savoir vraiment qui les a marqués. C'était vraiment. Et même en plus, on a eu aussi la chance entre guillemets d'avoir un parcours proposé par Lucie, de l'UBU et aussi par.
C'est vrai.
Enfin voilà. Mais du coup, grâce à ça, on a pu aussi aller voir des concerts, alors que c'est bête à dire, hein, mais à peu près toutes les personnes du groupe sont assez précaires. On ne peut pas aller à n'importe quel concert, aller voir n'importe quel artiste qu'on veut et les écouter. Putain. Mais là, justement, on a eu cette occasion-là. On a même eu l'occasion d'interviewer des artistes, savoir ce que eux, si eux-mêmes peuvent aider. À pouvoir aider ces jeunes ou ces n'importe tout type de personnes dans la précarité qui voudraient eux-mêmes écouter du son.
On va
où?
Et toi?
Et moi?
Et vous?
Et nous?
Toxine, t'as pas été au Parc Expo, par contre t'as non. participé au concert et t'as pu visiter la salle.
Ouais. Et c'était vachement bien, parce qu'on était proche des artistes, on était proche de la direction, en tout cas de l'organisation. Et ouais, c'est une autre vision de la chose. Effectivement, on n'est plus spectateur, on est acteur de la. Mais la rencontre avec les groupes, ouais, elle était formidable.
Donc ça veut dire qu'en gros, là tu y as été dans le cadre du parcours, mais est-ce que tu retournerais
Ah oui, de toute façon, il y a eu des soirées, il y a une soirée techno, là, moi j'y suis pas allé parce que j'étais fatigué, mais je sais qu'il y a d'autres soirées qui sont prévues, qui sont gratuites en plus, que j'irai.
Ok.
Maintenant, de là à payer, moi je suis adepte de la free party, donc la free party, c'est une free party. Quoi,
Donc une des limites, serait quand même le prix d'entrée. Quoi.
Ah, bien sûr. Bien sûr, si tu veux te payer tes boissons derrière, t'as déjà payé 20 balles pour ta soirée, c'est déjà, ça fait mal au cul, quoi.
D'un côté, le problème donc avec, par exemple, le prix de l'alcool et le fait que t'avais certaines personnes qui ne pouvaient pas rentrer avec leurs canettes, qui ont quand même un besoin, tu vois, de boire, et t'arrives devant le stand de boissons et les pintes, elles étaient à 8-9 balles.
7 euros.
Ouais, 7-8 euros, ça fait cher.
Quand même une expérience assez sympa. Ouais, vraiment, de découvrir des nouveaux lieux et tout, découvrir des gens, voir des artistes. Ouais, ça c'était bien quand même. Et avec Bilal, on était allé, c'était quoi? C'était les zombies qui passaient, je crois. Oui. On était allé voir, mais non, place assise, je sais pas combien de personnes là-haut, en bas et tout. Moi, c'est surtout ça qui m'a freiné. Les événements en intérieur, je ne peux plus. Vraiment. Ouais, il faut que je puisse respirer. Et puis ouais, c'est vrai que le coût de l'alcool a été assez cher quand même. Mm-hmm. Mais ouais, même juste à l'intérieur, le fait de vadrouiller et tout, il y avait déjà beaucoup trop de personnes pour moi. Ouais, c'était mon frein à moi.
Moi déjà, au départ, je voulais pas aller au Parc Expo. Parce qu'on en avait déjà discuté. Et c'est Alexis qui m'a dit que ça allait être super. Donc j'ai pris sur moi. Voilà, et j'ai pas été déçu, hein, je savais. Et moi, j'ai trouvé ça super en fait. J'ai navigué de hall en hall, vers plein d'artistes que je connaissais pas, d'autres que je connaissais un peu plus. Et voilà, et voilà. Donc j'ai passé une super soirée, en fait. Bah, c'est l'arrivée qui m'a vraiment dérangé, moi. Franchement, arriver dans un grand hangar avec des néons, être palpé deux ou trois fois avant de rentrer dans le truc, ça je trouve ça vraiment insupportable en fait. Pour un festival comme les transmusicales en plus, quoi, enfin, avec les néons blancs et tout, les barrières, tout ça, ça vraiment. Et là, ils devraient être vraiment décorer le hall quand ils arrivent avec les bus, quoi. Nous poser peut-être à l'extérieur et arriver directement dans un hall qui est déjà décoré, quoi.
Un frein aussi, mais qu'on a identifié avant même dans à qui est-ce qu'on pouvait proposer ou pas, c'est typiquement l'accès impossible aux animaux aussi, qui fait que des personnes qui ont des chiens ne pouvaient pas venir et qui étaient des personnes du coup à qui on ne pouvait pas proposer de venir. Et c'est régulier sur la plupart, enfin sur beaucoup beaucoup de d'événements culturels comme cela, et d'autant plus dans des endroits avec des questions de sécurité et tout ça, quoi.
Même si tout est mis en place, même si tout a l'air simplifié et tout est beau sur le papier, et ça l'était, dans la réalité, ça n'a pas été si simple que ça. Et je parle des gens qui étaient mobilisés et mobilisables, qui au dernier moment ont fait d'autres choix que je n'explique pas aujourd'hui.
Et après, moi je me suis endormi, comme ça, simple. J'étais crevé, hein, vous avez vu, hein, j'étais vraiment dans un état de fatigue. Alors, parce que c'est des jours que je ne dors pas, moi. Tu sais, j'ai du mal, vraiment du mal. Hein. Je suis en manque de sommeil total. Et là, effectivement. La succession des rendez-vous, des choses à faire, quand t'as pas dormi, c'est dur. Hein. C'est dur. Moi, j'ai lutté hein, sur le sommeil. Hein. J'aurais préféré être au Parc Expo, évidemment, littéralement. Mais je vous ai pas vu. Je me suis endormi entre deux murs, c'est clair. Entre le quick et les centres de parking. Il y a personne qui m'a réveillé. Pas vous, de toute façon, vous n'allez pas me voir, c'est certain, mais moi non plus, je me suis pas vu.
En arrivant à Rennes, j'ai connu en fait le principe de sous-culture entre guillemets, donc le milieu en fait de la rave party, de la teuf, et donc la culture underground. C'est la culture qu'on construit en fait en quelque sorte de nous-mêmes.
Pourquoi tu parles de sous-culture quand tu dis ça ?
Parce que c'est une culture qui est pas assez représentée, enfin très peu représentée en soi, et qui est énormément en fait rabaissée. Puni notamment par ce qu'on peut appeler un gouvernement et qui en fait est vu comme étant une sous-culture parce que elle va être vue pour les classes sociales, donc notamment basses, qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à des concerts et qui en fait se rejoignent en fait entre personnes, toujours entre parenthèses, marginalisées.
La nouvelle ministre de la Culture, elle m'a marqué beaucoup, de sa façon de mettre de la répression sur certains mouvements indépendants et de bloquer l'accès à la musique à beaucoup de personnes en fait, de par leur façon de vivre ou par leur façon d'aimer la musique, quoi. La liberté d'expression, on est en plein dedans, la liberté de faire des free parties, la liberté de se réunir, la liberté de faire de la musique en plein centre-ville, d'organiser des trucs sans forcément d'autorisation. C'est très compliqué de s'ouvrir musicalement et de s'éveiller l'esprit dans la conjoncture actuelle, quoi.
De toute façon, le mainstream n'existe pas sans l'underground, mais ça, ils n'ont pas encore compris, les gens d'en haut. Tu vois, que si tu tues la niche underground, ils n'auront plus rien à pomper, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu écoutes la musique mainstream d'aujourd'hui, tout vient de chez nous. Hein. Et après, ils mettent un peu de paillettes autour et ils font de l'oseille. Mais le combat continue. Même si je suis un peu rentré dans le système, c'est un peu le ver dans la pomme. Là, j'essaye quand même de pousser les murs.
La création collective de cet objet sonore nous a amené à questionner l'accès à la culture pour toutes et tous. Tout au long de ce chemin, en quête de parole, nous avons rencontré une multitude de personnes différentes. Artistes, facilitateurs, mais aussi et surtout des inaudibles trop peu entendus dans les médias. La plus belle chose que l'on ait pu apprendre de ce périple, c'est que la culture est un partage plus qu'important dans la société actuelle. Merci à celles et ceux qui ont répondu à nos questions et qui ont, de près ou de loin, permis à ce projet de prendre vie, ainsi que l'ensemble des associations qui nous ont accueillis et accompagnés. Le Relais, La Cloche, les Dulab, l'UBU, les Transmusicales, R22 Tout le Monde, ainsi que SILAB. En hommage à Guillaume Alexandre, figure de la zone rennaise et de la scène rock nordiste, décédé en janvier 2026, voici son interprétation de Ces gens-là, de Jacques Brel, en guitare-voix.
D'abord, il y a l'aîné, puis qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, qui sait même plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien s'il y doit, mais lui qui n'en peut plus, qui est complètement cuit, qui se prend pour le roi, qui saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on trouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques. Et puis qui balbutie, il a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, non, monsieur, on ne pense pas. On prie. Qui a jamais vu un peigne, qui me chante comme une teigne, même qu'il donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qu'a marié la Denise, une fille de la ville, enfin d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, non, monsieur, on ne vit pas. On triche. Puis un tout vieil, qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, ou que c'est elle qui est le carzeille. Oh, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, non, on ne cause pas. On compte. Frida, qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres et presque pas de mur, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste pour moi égorger les chats. Mais j'ai jamais tué de chat. Ou alors il y a longtemps, mais j'ai oublié. Oh, ils sentaient pas bon, enfin ils ne veulent pas. Parfois quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant.